Les bienfaits de l'activité physique chez les personnes autistes sont bien documentés. Pourtant, encourager le sport ne représente pas nécessairement une bonne idée, même que le sport organisé pourrait être davantage néfaste que bénéfique. Jean-Charles Grelier, kinésiologue, nous présente le revers de la médaille quand il est question de sport et d'inclusion. Dans un instant, au Signal. Kevin Breton au micro, bien heureux de vous retrouver pour vous présenter un sujet aujourd'hui dont j'avais hâte de parler, un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que à nos habitudes, au Signal, on a l'habitude de faire la promotion du sport adapté, de parler de ses nombreux bienfaits, mais j'ai rencontré un type fort intéressant qui travaille avec des enfants qui sont autistiques ou qui ont le syndrome d'Asperger ou des troubles du langage, de troubles des troubles praxiques, c'est-à-dire, ou encore un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, entre autres. Son nom, c'est Jean-Charles Grelier, qui est avec nous aujourd'hui, qui est kinésiologue, comme je le disais en introduction. Bonjour, Jean-Charles.
Bonjour.
Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler du sport et du fait que ça peut pas nécessairement entraîner que des bienfaits chez les personnes qui le pratiquent. Par contre, vous, ce en quoi vous croyez vraiment de manière claire, c'est que l'activité physique, elle, peut être très bénéfique et c'est d'ailleurs votre métier. Parlez-moi de ce que vous faites en fait avec votre clientèle qui est soit autiste ou Asperger.
Donc moi, en fait, j'utilise les activités physiques, mais aussi sportives. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas rester dans la finalité première du sport, qui souvent, les gens pensent qu'aller marcher dehors, c'est faire du sport. Non, le sport, ça a vraiment une définition. Et en fait, l'activité physique, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, on fait souvent des amalgames entre activité physique, exercice physique, activité sportive et santé. Ouais. Et on mélange un peu tous les concepts et puis on a tendance à sursimplifier les choses. Et donc, en fait, ça a des conséquences, en fait, parce que le sport, c'est toujours une visée de performance, toujours de dépassement de soi. Et donc, à partir de là, on n'est pas forcément dans un concept de santé. Uh-huh. C'est-à-dire que si on est, même la manière dont on s'entraîne, ça va complètement être différent et on va atteindre des paliers à partir d'un certain âge, alors que l'activité physique, on peut faire ça toute sa vie.
Ouais, donc selon les définitions, en fait, c'est que le sport s'inscrit nécessairement en relation avec la compétition.
Voilà.
Et pour vous, le fait qu'il y ait un aspect compétitif, ça va en contresens avec un mode de vie sain et en santé.
On peut le faire, mais il y a des doses à respecter, mais il ne faut pas que ça soit une finalité première, ce qui est souvent fait, même si on utilise toujours le mot « fair play », les bonnes
esprit
valeurs.
Esprit d'équipe, ouais.
Voilà, tout comme ce qu'on va voir bientôt là, sur les Jeux Olympiques.
Ouais.
Donc, en fait, ça appartient qu'à une certaine catégorie de personnes. Mm-hmm. C'est une sélection, une hiérarchie, obligatoirement.
L'élite.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, on peut... Il faut savoir qu'il y a quand même du sport adapté, c'est-à-dire que on peut faire ça, mais on ne va pas le faire de façon sérieuse. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait du sport dans leur vie, puis ils vont pas comprendre ce que je dis là.
Ouais, ouais.
C'est parce qu'eux, ils ne l'ont pas fait de façon sérieuse, ils se sont amusés. Non, mais ce n'était pas complètement du sport. Ils ont utilisé le moyen du sport, c'est-à-dire des techniques, ils ont été entraînés, mais ils ont été capables de s'arrêter à temps. Ils ne sont pas rentrés dans la définition même du sport, en fait, de ce que... Et, sauf qu'il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre, et
ouais,
notamment les personnes autistes.
Ouais, c'est pour ça que c'est un public qui est particulièrement vulnérable.
Voilà.
Aux aléas du sport. Mais avant de se rendre là, j'aimerais quand même qu'on dresse un portrait de c'est quoi les bienfaits que l'activité physique va entraîner chez les personnes autistes. Vous êtes bien placé pour en parler. Vous faites de la natation avec eux, notamment de la bicyclette.
Oui, donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, ça apporte au niveau physique. Ça fait longtemps qu'on le répète, depuis très très longtemps. Mm-hmm. Au niveau social, ça c'est quelque chose que tout le monde répète avec le sport d'ailleurs. C'est tellement bien connoté,
ouais,
et c'est bien valorisé. Donc,
et
puis après,
liens,
ce qu'on sait de plus en plus, on le savait déjà, mais c'était sous forme d'observation. Comme Jean Piaget, dans les premiers stades du nourrisson, il voyait que l'intelligence se développait à partir d'un certain stade, le stade sensorimoteur, mm-hmm, mais c'était avant 2 ans. Sauf que là, on se rend compte que maintenant, on commence à montrer que même les capacités intellectuelles ou les abstractions, tout ce qui est, en fait, il y a des effets sur le cerveau, dans la vie quotidienne, en fait, de tous les jours. Si on pratique régulièrement l'activité physique et à une dose modérée, et il y a une manière aussi de le faire. Il n'y a pas toujours modéré, mais il y a une manière de le faire qui est très, très importante.
Ça permettrait notamment de gérer le stress et l'anxiété.
Oui, voilà. Et notamment dans le public autistique, il y a beaucoup d'anxiété et de stress, mm-hmm, du fait qu'ils sont différents. Et donc, en fait, l'activité physique, moi, ce que je retiens surtout, c'est doublement bénéfique. Donc, en fait, les études, elles montrent de plus en plus clairement que ça a un impact sur le cerveau, les fonctions intellectuelles qu'elle sous-tend, et que l'activité physique a probablement d'autant d'importance que l'activité intellectuelle sur le développement et le maintien de la vitalité du cerveau.
Autant une importance aussi grande que l'activité intellectuelle sur le développement du cerveau. Puis d'ailleurs, vous m'avez appris que les personnes autistes sont souvent plus susceptibles ou à risque de vivre des épisodes de dépression.
Voilà.
Et l'activité physique peut combattre ça.
Oui. Oui, mais il faut le faire encore d'une certaine manière. Avec ça, ce qui est important, c'est ça que je mentionne. Mm-hmm. C'est moi, il y a beaucoup de gens quand ils voient les photos de ma page Facebook, tout ça, ils voient tout de suite qu'il y a du sport. Ouais. Mais en fait, le fait que je sois tout seul avec eux, ce n'est plus du sport déjà parce que on n'est pas en train de se comparer à d'autres, on n'est pas en train de battre des records.
Ouais, parce que vous le faites d'une manière encadrée avec les enfants, avec une certaine supervision.
Moi, je suis un mélange de différentes disciplines en fait, entre l'éducation, j'appartiens à aucune, mais je suis un mélange plus la kinésiologie quand même, spécialiste de l'activité physique, mais j'essaye d'être à la fois au milieu à la frontière de l'éducation physique, de la psychomotricité et du sport aussi. C'est-à-dire que j'utilise quand même les techniques et moi, ce que j'aime dans le sport, c'est en fait l'esthétique des gestes. Ça, c'est culturel quand même, c'est historique. Il y a toutes les activités sportives qui ont été créées, il y a des belles choses. Et c'est pour ça
penser au karaté, par exemple.
Oui, bien sûr.
Où on apprend des techniques, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me confirmer, parce que moi, j'ai toujours eu en fait cette impression-là que les personnes autistes étaient plus susceptibles d'être des personnes sédentaires. Est-ce que c'est prouvé, ça? Est-ce que c'est observable ou c'est plus un mythe?
Oui, il y a des recherches qui ont montré qu'en fait, en fait, il y a déjà, au niveau on parlait de l'aspect physique, il faut savoir qu'elles ont 40% en plus de probabilité d'être obèses. Donc déjà, ça, c'est des études qui ont été faites au Québec. Après, il y a une plus grande dépendance, ça a été montré, aux jeux vidéo, aux nouvelles technologies. Donc, ça va être encore plus dur de les faire sortir de la maison et de leur faire faire de l'activité physique. Donc, ils vont avoir déjà, il va y avoir un effet, déjà, le fait de plus, déjà, on le sait, même les enfants traditionnels ne font plus assez d'activité physique. Ouais. Et ça va avoir un impact très important sur les générations futures. Donc, ça va aggraver les maladies secondaires.
Vous me disiez, Jean-Charles Grelier, un petit peu plus tôt, que ce que vous trouvez bien dans le sport, là, dans sa définition la plus pure, c'est l'apprentissage de certaines techniques. On a donné l'exemple du karaté, mais on peut aussi donner l'exemple de la natation.
Mais le karaté, je suis pas... Non, tous les... En fait, je suis pas complètement d'accord. Le karaté ou le judo, n'importe quel... Il y a toujours, autrefois, ça a été créé par le fondateur. Et au moment où il est mort, c'est devenu un sport, une compétition. Donc, c'était plus un art martial, une philosophie de vie. C'est devenu tout de suite de la compétition. Et là, ça a transformé. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça parce qu'en fait, d'ailleurs, même le skateboard, c'est devenu pareil aujourd'hui. C'est devenu maintenant une épreuve olympique. Il y a plein de gens qui considèrent que c'est une contre-culture. Ça ne devrait pas avoir sa place dans
les Olympiques.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce que je tenais à dire surtout, c'est par exemple l'Organisation mondiale de la santé, où les scientifiques ne parlent jamais du mot sport dans les études. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, c'est trop général. Le sport, c'est des activités, donc c'est un moyen. Mais en fait, quand on recherche des bénéfices pour la santé, c'est toujours lié. Les recherches, elles montrent souvent des épreuves d'aérobie. C'est-à-dire, on utilise l'oxygène. Donc, ça va avoir un impact sur les enfantistes, sur le sommeil. Certains types d'exercices, ça va avoir un impact sur les habiletés motrices. Donc il n'y a pas que l'Organisation mondiale de la santé, il y a des médecins aussi qui parlent de comme quoi à partir du moment où on fait du sport, c'est l'extrême de l'activité physique, donc il y a des risques de blessures, des risques de plafonnement, de plein de choses comme ça.
Mais c'était pas pour contrer votre discours, mais quand vous me parlez de karaté, vous me disiez que l'apprentissage de certaines techniques, c'est ce que vous trouviez intéressant.
Oui.
Le fait d'apprendre certaines positions avec son corps, certaines postures.
Oui, bien sûr. Oui.
On peut aussi penser à ça, par exemple, avec la natation, une autre discipline que vous connaissez bien.
Oui.
Et il y a un exemple que je trouve intéressant où vous avez vraiment pu travailler l'apnée avec un enfant. Est-ce que avec un enfant, je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais je peux vous me dire comment ça s'est déroulé dans la piscine.
Mais c'est un enfant que ça fait 5 ans que je le suis, en fait. Et déjà, c'est un de mes clients qui a le plus progressé. Et en fait, tous mes clients, c'est pour ça que souvent tu me demandais un exemple.
Ouais.
J'en ai pas vraiment, j'en ai plein. Toutes les clients, même déjà quand j'étais stagiaire en France, j'avais déjà eu des impacts sur certains enfants qui s'étaient mis à lire et à écrire. Tout ça parce que je suis vraiment dans la relation. Et donc, je suis pas seulement dans une discipline. Et donc, cet enfant-là, donc, je te parle, parce que j'ai une manière d'enseigner la natation qui n'est pas commune. Et pourtant, c'est pas moi qui ai inventé des choses. On sait aujourd'hui que le savoir nager n'a rien à voir avec des techniques sportives de la natation. Donc, savoir les 4 nages, ce n'est pas ça, savoir nager. Il faut, pour savoir flotter déjà dans l'eau, sans perdre trop d'énergie, il faut d'abord s'immerger. On n'a pas le choix. Donc, lutter à la surface pour aller vite, ça, c'est des techniques sportives. On perd de l'énergie et puis ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se noyer en mer.
C'est comme contre-naturel.
Les enfants autistes, certains ne vont pas forcément être capables d'apprendre les techniques, mais ils vont apprendre par eux-mêmes leurs propres techniques pour ne pas se noyer. Puis moi, je suis souvent, pour moi, l'essentiel de l'enseignement se passe sous l'eau. Et donc, ça va améliorer, par exemple, c'est des petites courtes, la pratique de l'apnée, qui ça ne dure pas longtemps, je ne suis pas de la plongée là, mais le fait que ça soit répétitif, puis sur une heure, des fois même, il y a un enfant, lui d'ailleurs, c'est 1h30, et donc on parle de vasoconstriction périphérique et de transfert sanguin, bradycardie, modification des échanges gazeux, et ça a eu un impact parce que maintenant, il était né déjà avec un problème au niveau pulmonaire, puis son spécialiste ne veut plus le voir maintenant.
Parce qu'il est rendu
stade, ça va très, très bien.
Un standard super. Ouais. Ben, c'est un des exemples des bienfaits de l'activité physique sur les personnes, le public autiste ou la clientèle autiste, pour ne pas la nommer ainsi. On va continuer la discussion dans un instant après cette petite pause musicale. Jean-Charles, si vous le voulez bien, on va parler un petit peu plus de sport et donc de ces aléas un peu périlleux qui l'entourent.
Très bien.
De retour au Signal, toujours avec notre invité Jean-Charles Grelier. Je vais lire une citation qu'il m'a envoyée lorsqu'on préparait l'entrevue ensemble. C'est tiré du livre « Excentrique, phénomène et syndrome d'Asperger » publié en 2007 de l'auteur Luke Jackson. Vous allez voir que ça met assez bien la table à notre sujet. « S'il vous plaît, comprenez bien que la seule pratique obligatoire d'un sport d'équipe ne suffira jamais à rendre une personne plus sociale ou mieux coordonnée. » C'est un peu comme affirmer que tenir un livre devant le nez d'un aveugle assez longtemps suffit à lui rendre la vue. Pourquoi est-ce que cette citation-là vous parlait à vous, Jean-Charles?
Mais déjà, ça vient d'un Asperger.
Ouais.
Et je crois qu'il a 16 ans.
C'est un jeune garçon, ouais.
C'est ça, c'est son premier livre qu'il a écrit. Et donc, ça, déjà, on voit déjà ce qu'ils en ressentent. Et en fait, on les oblige peut-être trop tôt à se socialiser. Et alors que pourtant, l'activité physique, les bienfaits, ils ont montré qu'au niveau physique et au niveau mental et psychologique, il y a encore plus de bienfaits qu'au niveau social.
Ouais.
Et on a tendance à trop se focaliser sur le social. Le social, pour moi, il est là. Il va venir après. Il ne faut pas tout de suite... Parce que souvent, on va les mettre en situation problématique si on va trop vite.
Ouais.
Donc, il y a des gens qui sont très, très doués. Il y a des autistes qui peuvent être très doués en sport collectif. Il ne faut pas les empêcher, par contre.
Ouais.
Mais il ne faut pas forcément à tout prix les mettre dans un sport d'équipe alors qu'il faut travailler les fondamentaux. Moi, ce que je fais souvent avec les enfants, je vois comment ils sont, mais souvent, je propose une multitude d'activités motrices et ludiques. Donc, c'est-à-dire que oui, j'utilise certains types de sport, mais en une heure, je peux faire 9 activités. Mmh. Donc, ça tourne.
La force, c'est que le sport, organiser une ligue de soccer récréative, c'est pas une fin en soi, c'est pas une solution clé en main. C'est ça qu'il faut retenir,
voilà,
en fait. Puis qu'on doit plutôt y aller avec une approche plus transversale, comme vous le proposez.
Je suis pas là en train de critiquer tout le travail qui est fait dans la
Évidemment.
Société, par toutes les organismes communautaires ou tous les gens qui font ça, comme du sport adapté. Ils font du très bon travail.
Évidemment.
Il faut juste que... Moi, je suis en train d'avertir parce que j'ai une expérience en tant que sportif. J'ai fait mes études dans le sport. J'en ai fait mon métier. J'ai passé ma vie dans ce milieu-là.
Mm-hmm.
Donc, moi, je suis pas en train de condamner le sport. Je suis en train de dire, attention, il y a des précautions à prendre. C'est pas aussi simple que ça.
Mm-hmm.
Et donc, le sport, c'est bon pour la santé. Moi, je préfère l'adage d'Hippocrate qui dit que tout est poison, rien n'est poison, tout est affaire de mesure.
Ouais, c'est pas une formule parfaite. Sport égale pas nécessairement bien-être.
Ouais.
C'est ce qu'il faut retenir, mais je reviens, vous me disiez que c'était pas nécessairement faux ou vrai que les personnes autistes n'aiment pas les sports collectifs, parce que j'ai déjà entendu ça. C'est un mythe, le fait que c'est nécessairement impossible de penser qu'une personne autiste pourrait jouer au soccer, par exemple.
Non, 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 ils peuvent, ils peuvent. Par contre, c'est sûr qu'il y en a certains types de. Ça dépend du profil cognitif. Dans
Ouais.
les premières années de vie, c'est pas le truc à faire tout de suite. Pour eux, lancer un ballon, c'est plus fun de le lancer en l'air. Ça n'a aucun sens de le lancer dans un but ou de faire des passes.
Ouais.
Donc, il faut d'abord travailler pendant plusieurs années, même, ou des fois, c'est plusieurs mois, de trouver le sens de l'enfant. Il faut s'adapter. Et pourquoi calquer le sens que l'adulte a défini par rapport à un ballon? On n'est pas pressé. Il
Ouais.
faut prendre son temps, respecter l'enfant.
Et c'est particulièrement délicat parce que ça survient à un moment dans le développement de l'enfant ou de l'adolescent où la personne autiste, on prend cet exemple-là, mais on sait qu'il y a d'autres syndromes là, à qui ça serait approprié d'en parler. Ça arrive à un moment où la personne autiste est en pleine développement de son identité personnelle. Et là, c'est risqué de lui donner des mauvais plis si
Oui.
on la met dans un mode compétitif.
Oui, ben, en fait, déjà, c'est une norme. Et puis, il y a même Henri Laborie qui a montré que l'esprit, l'instinct de domination, de gagner, n'est pas, en fait, génétique. Il est appris. Donc, en fait, c'est pas forcément. Et le culte de la performance, c'est la société, en fait. On est obsédé par la productivité. Et donc, ça, c'est en fait, il y a des. Faut être très. Donc, on parlait de. Le taux de suicide, dernièrement, ils ont parlé d'un rapport que les autistes ont 2 fois plus de tentatives et de suicides que la population non autiste. Donc, ça, c'est à prendre à la légère. Après, le problème d'identité, c'est-à-dire qu'à l'âge de l'adolescence, ils vont avoir des problèmes d'identité. Donc, le jour où ils arrêtent à faire du sport, ils sont complètement perdus. Parce qu'ils ont pris les choses au pied de la lettre. Ils peuvent se blesser et ils n'ont pas appris à savoir, à se connaître. Et souvent, moi, c'est pour ça que j'ai tendance à dire c'est un peu éphémère. Oui, ça aide à travailler la discipline, plein de belles choses. Mais en fait, il faut faire attention parce que eux, ils ont du mal à surfer entre les différentes sphères de la vie. Donc, s'ils deviennent des sportifs, quand ils vont arrêter du jour au lendemain, ils seront plus rien.
Ils vont passer du
Ouais, et c'est connu
terrain.
même chez les sportifs de haut niveau. Hein, des fois, ils mettent 15 ans, c'est prouvé, 15 ans à s'en remettre. Parce qu'ils ont tellement été gratifiés, ils ont tellement été portés en triomphe comme une des personnes VIP,
Ouais, mis
qu'ils
sur des
sont complètement
piédestals.
perdus après quand ils doivent se remettre dans la position normale.
Donc, il y a un risque de programmer d'une certaine façon des personnes qui sont confrontées au sport sans que ce soit de manière organisée.
Voilà. Et
Leur
puis la
programmer.
norme aussi souvent, c'est quoi? La socialisation, oui, c'est comprendre la normalité, mais se réaliser soi-même, c'est complètement différent.
On
Et
entend
ouais.
souvent parler comme. Parce que, tu sais, on parle du public autiste, mais même pour les personnes qui n'ont aucun diagnostic particulier, des élèves ou des enfants qui n'ont aucun diagnostic particulier, il y a de plus en plus question d'avoir des matchs de hockey ou des matchs de soccer où ce qu'on ne compte pas les points,
Voilà,
où
ça
ce
c'est
qu'il n'y a pas
bien.
de pointage final. Ça,
Oui,
est-ce que c'est une
ça
bonne
existe en
méthode?
Afrique. Ils
Oui.
ont créé à Dakar
OK.
du soccer où ça s'appelle On se fout du score. Donc là, pour moi, déjà, ils sont en train de dépasser, transcender le sport, comme un peu j'essaye de faire. C'est-à-dire que moi, je détruis pas le sport, c'est pas mon but, j'adore. Mais ce que j'essaye de faire, c'est je ne prends pas les choses au pied de la lettre. Et puis moi aussi, je me moque complètement du score. Il vaut mieux centrer sur les acquis des apprentissages, puis la valorisation de l'enfant, et non pas toujours à se comparer aux autres. Ça peut devenir une obsession, et aussi l'anxiété de performance, qui n'est pas forcément bon pour les enfants.
Ben ouais, puis je reviens à ce que vous disiez sur surfer en différentes sphères de la société. De ce que je comprends, en fait, c'est que si on confronte ou on met en relation des personnes autistes qui sont en quête d'identité personnelle, en construction
Voilà.
individuelle, avec certaines notions comme par exemple la compétition contre l'adversaire, les bons versus les méchants, finir premier.
D'ailleurs, c'est même les adultes, il y en a beaucoup d'adultes qui ont écrit des livres, ils n'aiment pas le sport, ils ne comprennent pas. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on est en train de faire beaucoup de promotions avec le sport. Donc, on a tendance à, pour moi, il y a des enfants qui vont se mettre à faire du sport à fond, mais ça ne vient pas d'eux, en fait. Et ils veulent être aimés par leurs parents, par leur entourage, par tout le monde. Donc, il faut être méfiant, faut prendre des précautions.
Pour pas que ça les
Voilà,
programme
c'est
mal.
ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Puis souvent, j'aime ça. Le sport, c'est pas une métaphore de la vie. Il faut. La vie, déjà, est violence. Elle a la même étymologie grecque. Alors pourquoi la compétition est partout? Pourquoi il faudrait en plus en rajouter sans arrêt? Donc, il y a une manière, je pense, de faire du sport. Donc, une autre idée du sport. C'est peut-être ça la véritable éducation physique des enfants.
C'est vraiment intéressant, mais je veux quand même, parce que mais le temps file, mais c'est parce que je vous entends dire que le sport, c'est pas tout dans la vie, mais j'entends quand même des gens qui vont écouter l'émission puis qui vont se dire, ouais, mais tu sais, l'esprit de compétition, il existe dans d'autres sphères de la société. Ils vont arriver à l'école, ils vont être en
À l'école, elle est déjà
compétition.
là.
Ouais, c'est ça, au marché
On
du travail.
hiérarchise, mais tout est déjà
Mais ça
hiérarchisé
va
dans
pas
les
les
écoles.
préparer, le fait de faire du sport, ça va pas les préparer au marché du travail, à être en compétition, selon vous?
Non.
Non.
Non, ça permet d'avoir des échecs. En fait, la majorité des gens sont en échec. Il y a très peu de gens. Ceux qu'on voit à la télé, c'est une starification. Ça n'a strictement rien à voir avec l'inclusion sociale. On a tendance à mélanger les deux. On ne peut pas être Zidane ou Chantal Petitclerc. Tout le monde ne peut pas être. C'est des modèles, c'est très
Ouais.
bien. Mais en fait, on a tendance à. Tout est fait pour que l'individu, malheureusement, ne se rencontre pas. Et c'est pas pour moi, le dépassement de soi ne permet pas forcément de se rencontrer. Et moi, je suis plus pour l'émulation, comme Albert Jacquard en parlait, c'est-à-dire se servir des autres, être en coopération avec eux et d'apprendre sur soi. Et plutôt que de. Moi, ce que j'aime moins dans le sport, c'est qu'on a tendance à briller et on éteint les autres à côté. Et c'est ça qui me dérange. Et la réalisation de soi, c'est pas ça.
Et là, Jean-Charles Grelier, on s'en va tranquillement vers la conclusion, vers la fin de l'émission, mais je veux quand même poser la question, si, parce qu'on parle depuis tantôt de tendre vers un autre idéal, un sport nouveau genre qui serait, disons, plus adéquat ou conforme avec les valeurs humaines, et s'il y a aujourd'hui des coachs, des bénévoles qui nous écoutent puis qui voudraient trouver une autre manière de définir le sport, quels conseils on pourrait leur donner?
Ben déjà, de ne pas prendre les choses au pied de la lettre, de se méfier, par exemple, surtout aux enfants autistes, mais ça l'est aussi pour les enfants traditionnels. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le sport, la définition a changé. C'est-à-dire qu'on parle de sport de détente, de sport de loisir. Pour moi, ça n'existe pas, ça. En fait, il y a toujours une logique de performance derrière. Et c'est dénoncé par beaucoup de gens. Et on sait qu'à l'enfance, il y a des périodes charnières où ils sont plus fragiles, à l'adolescence aussi. Donc, le fait de toujours se dépasser, de gagner sur les autres, ça crée des individus qui sont narcissiques, égoïstes et qui vont pas forcément être en collaboration ou même être bien dans leur peau quand ils seront adultes. Donc moi, ce que je ce que j'ai la manière dont tu m'en parles là, par rapport aux entraîneurs, c'est que il faut transcender. On n'a pas le choix aujourd'hui de dépasser ce qu'on voit à la télé. Il faut faire et c'est faut c'est il faut pas il faut dire ce qu'est vraiment le sport de notre société contemporaine et il faut on peut utiliser aussi les moi par exemple j'ai utilisé les parcs les bains publics et ça pour moi c'est de la véritable inclusion sociale. Donc je vais pas mettre tous les enfants autistes dans un groupe à telle heure, à tel lieu. Pour moi, c'est pas ça une véritable inclusion sociale. Et ça a été montré depuis des années que la véritable inclusion sociale, c'est par le travail. Et ce n'est pas forcément. C'est bien qu'il y ait des manifestations sportives où il y a une sorte de chaleur, où on s'amuse, ou tout ça. Mais souvent, le fait qu'il y a des points, il y a même une fameuse phrase qui dit: pourquoi compte-t-on les points si l'important, c'est de participer?
Donc, quelques pistes de réflexion que je trouve intéressantes. Tout d'abord, ben, l'idée d'emmener ces groupes d'activités physiques-là dans des lieux communs, aller à l'extérieur des gymnases et des lieux fermés, les emmener dans des parcs, je trouve que c'est une très bonne idée, dans des bains publics. Un autre ingrédient qu'on peut penser, c'est d'avoir une approche transversale avec, si on le peut évidemment, c'est sûr que c'est toujours difficile, mais de pouvoir compter sur des kinésiologues, des physiothérapeutes,
Oui.
des psychologues également, ça peut toujours être positif.
C'est ça, parce que c'est un des rares domaines dans la société actuelle où on demande très peu forcément, il y a beaucoup de bénévolat,
Ouais, c'est ça,
d'animateurs,
malheureusement.
d'étudiants qui n'étudient pas forcément en sport. Et oui, on n'a pas le choix de faire ça, mais il faudrait qu'ils soient guidés, tous ces gens-là.
Avoir un bon encadrement,
Voilà.
peut-être même
Ouais.
gouvernemental,
Parce qu'on oublie la
ministériel.
pédagogie, on oublie les facteurs anatomiques, physiologiques, sociologiques du sport. Et on fait tout au pied de la lettre et on inculque ça aux enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Puis moi, je suis un peu contre le fait qu'on transforme des gens comme des balles de flipper qui sont guidés par les autres. Moi, je préfère permettre à l'enfant de se découvrir par lui-même et de choisir ce qu'il veut après plus tard.
Et l'autre ingrédient que je retiens de votre recette, vous l'avez dit, c'est de ne pas tout prendre au pied de la lettre, de ne pas nécessairement compter le pointage si on joue au football, au
Voilà,
soccer ou au
c'est
hockey.
ça.
C'est peut-être trois choses qu'on peut donner comme conseil aux
Mais
bénévoles
par
qui nous
exemple,
écoutent.
la danse, j'ai souvent vu des cours de danse où absolument, même aux enfants, il faut toujours faire une chorégraphie à la fin du cours. Ils n'ont même pas acquis les fondamentaux, la littératie physique, qu'il faut toujours faire une chorégraphie pour faire plaisir aux gens.
Aux
Donc, alors qu'ils
spectateurs,
sont déjà, ils
ouais.
sont même pas prêts. Donc, moi, je pense que c'est intéressant, mais à la fin d'une année, pourquoi toujours faire à la fin d'un entraînement des points et donc, déjà, il y a comme une motivation extrinsèque qui n'est pas forcément bonne. Moi, je préfère toujours la motivation intrinsèque pour que l'enfant soit en fait autonome plus tard et non pas un automate dans un monde d'automates. Et une chose dernière que
Oui,
j'aimerais dire,
bien
c'est
sûr.
qu'en fait, la relation aujourd'hui entre activité physique, exercice physique, santé, sport et puis santé, elle est floue. Et donc, en fait, tout dépend de l'effet de nombreux paramètres individuels tels que l'âge, le sexe, l'état de santé, les déterminants psychologiques et sociaux, mais également des activités, des caractéristiques de l'activité. Donc, on ne peut pas dire le sport égale santé. C'est plus complexe que ça en a l'air.
Excellent mot de la fin. Merci Jean-Charles Grelier aujourd'hui d'être venu nous présenter ce qu'on peut présenter comme étant le revers de la médaille du
Très
sport.
bien, oui.
J'ai trouvé ça franchement intéressant, puis j'espère que ça va servir à bien des gens. Merci beaucoup. Nous, on
Merci.
conclut l'émission dans un instant avec quelques petites nouvelles en bref. Boccia Canada est fier d'annoncer que du financement additionnel a été reçu afin de soutenir et d'améliorer le programme Prochaine Génération de Boccia. Ce soutien financier supplémentaire a été rendu possible grâce à trois partenaires de Boccia Canada: Sport Canada, À nous le podium, le Comité paralympique canadien et la Fondation paralympique canadienne. Le programme de Boccia Canada vise à offrir de l'entraînement de haute qualité aux athlètes canadiens de Boccia en les invitant au Centre d'entraînement de Montréal pour s'entraîner avec les entraîneurs et les membres de l'équipe nationale. Lorsqu'ils sont au Centre national d'entraînement, situé à l'Institut national du sport du Québec, les athlètes du programme peuvent profiter d'équipements de classe mondiale et de services de sciences du sport mis à leur disposition sur le site. Deux personnalités importantes dans le parasport seront honorées lors du spectacle Bénéfice et intronisation au Temple de la renommée de Parasport Québec le 14 mars prochain. Donald Royer est le deuxième intronisé de cette soirée, évoluant d'abord comme athlète à l'Université de Sherbrooke sur les équipes interuniversitaires. Il s'est ensuite illustré à titre d'entraîneur au cours de sa longue carrière. Il était entraîneur de basketball debout à l'université lorsque quelqu'un l'a appelé pour lui demander un coup de main dans le basketball en fauteuil roulant. Ma réaction naïve et un peu stupide a été de répondre que je ne connaissais rien là-dedans. La personne m'a dit de façon très posée: écoute, c'est du basketball, mais il joue en fauteuil roulant, a raconté M. Royer. Un peu secoué par cette remarque, il a alors accepté d'aller jeter un coup d'œil à l'équipe de basketball en fauteuil roulant. J'avais dit oui un peu pour me débarrasser de la personne, et 40 ans plus tard, je suis encore impliqué dans le basketball en fauteuil roulant et je ne regrette absolument pas mon implication, qui est excessivement valorisante. C'est un texte qui a été rapporté par le site Parasport Québec. C'est ce qui conclut cette belle émission aujourd'hui. Merci beaucoup à Mathieu Tessier à la réalisation. Merci à Jean-Charles Grelier, notre invité de la journée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même poste. Et d'ici là, gardez le sourire.